Les Années-Lumière, édition du 25 juillet 2010. Infection, prévention, guérison, revendication. Bilan de la 18e conférence internationale sur le sida qui se déroulait cette semaine à Vienne. Bonjour, ici Sophie-André Blondin en remplacement de Yannick Villedieu et en compagnie de l'équipe pour vous présenter cette édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Cette semaine, Yannick Villedieu, justement, vous occupez toute la première heure avec des nouvelles du front de la guerre contre le sida.
Oui, de mauvaises nouvelles, comme d'habitude lors de ces conférences internationales sur le sida, mais aussi, contrairement à l'habitude, un petit nombre de bonnes nouvelles.
Deuxième heure, nous poursuivons notre série estivale qui souligne l'année mondiale de la biodiversité, série qui s'intitule 6 milliards d'espèces, une planète. Cette semaine, on part à la pêche à la truite mouchetée sur le lac Ledoux dans la réserve de Mastigouche avec des chercheurs qui documentent la séparation de cette espèce en deux formes différentes. Ensuite, nous rediffuserons une grande rencontre des Années-Lumière. Chantal Srivastava s'entretient avec l'agriculteur, écrivain et penseur Pierre Rabhi. C'est l'un des piliers des principes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie. Et pour terminer l'émission, l'auteur de la semaine, Gaëlle Lucia Berdoux.
Le toxicologue Jean-François Narbonne signe 100% toxique ou comment nous sommes tous imbibés de polluants. C'est publié aux éditions Thierry Soucard.
Mais tout d'abord, partons à Vienne, là où s'est déroulée cette semaine la 18e conférence mondiale du sida. Notre animateur Yannick Villedieu y était encore une fois cette fois, comme à chacune de ses conférences. Voici donc le reportage qu'il nous envoie pour en faire le bilan.
On était à Vienne, et à Vienne, on fait comme les Viennois. Mais on était aussi à la cérémonie d'ouverture de la 18e conférence internationale sur le sida. Et à la conférence sur le sida, on fait comme à la conférence sur le sida. Et si la conférence sur le sida était à Vienne cette année, c'est parce que Vienne est depuis toujours la porte d'entrée de l'Europe de l'Est et qu'on voulait ainsi braquer les projecteurs sur une partie du monde où l'épidémie est en pleine flambée.
Владимир Живчак, я возглавляю Восточноевропейское центральноазиатское объединение организации людей живущих.
Владимир Живчак préside l'Union des personnes vivantes avec le VIH en Europe de l'Est et en Asie centrale. Il est installé à Kiev, en Ukraine. Il est venu à la conférence pour lancer un cri au secours.
В регионе живет более, по оценочным данным, представленным программой ООН по СПИДу, более...
Selon ONU SIDA, me dit-il, plus d'1 400 000 personnes sont infectées par le VIH dans la région. Et chaque année, plus de 20 000 personnes en meurent, ce qui équivaut au nombre de personnes qui participent à cette conférence.
Здесь на конференции присутствуют. Уязвимые к ВИЧ-группы, МСМ.
Quand on parle des populations les plus à risque, comme les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, comme les utilisateurs de drogues injectables ou comme les travailleuses du sexe, l'épidémie est à un niveau très élevé. Et à cause de la criminalisation et des législations dans plusieurs pays, ces gens-là doivent se cacher et pour eux, la situation est critique.
Je suis Denis Brun, directeur régional de ONU SIDA pour les pays d'Europe et d'Asie centrale. En Europe de l'Est, ça va très mal. ça va mal parce qu'il n'y a pas de prévention digne de ce nom ou qui n'est pas à une échelle suffisante, parce que l'accès au traitement est très insuffisant, parce que maintenant les pays commencent à avoir des problèmes d'argent. Ils ont été soutenus par le Fonds mondial pendant de nombreuses années, mais certains commencent à ne plus pouvoir l'être, soit parce qu'ils sont devenus des pays à revenus moyens et qui ne sont plus éligibles, soit parce qu'ils ont épuisé leur capacité de recevoir des subventions. Et les gouvernements n'ont pas prévu de prendre en charge le traitement ou la prévention dans leur budget national.
Et l'épidémie est attisée, au fond, par la question de l'usage des drogues. Et ça aussi, c'est une situation qui est assez dramatique. Il y a une augmentation de l'usage et la réponse est peu une réponse, disons, de nature médicale.
Non, ça c'est sûr qu'on a un vrai problème d'utilisation des drogues dans la région. On considère qu'il y a 1 800 000 drogués en Russie, par exemple. Et quand on dit drogués, c'est des gens qui s'injectent de l'héroïne, c'est pas des drogués qui fument. Donc on a un vrai problème de fond. On dit qu'aujourd'hui, 80% des gens qui vivent avec le VIH en Europe de l'Est ont été contaminés par la transmission d'usage de drogue. Et maintenant, progressivement, on voit une transmission sexuelle qui augmente parce que les drogués, ils ont aussi des copines, des femmes, des maris. Et que maintenant, on se retrouve avec une transmission qui devient importante, avec plus de 20% de la population adulte positive, comme c'est le cas en Estonie ou en Ukraine, par exemple.
Pourtant, en Russie, il y a quelques années, il y avait eu le sommet de Saint-Pétersbourg, le G8. On avait fait un effort magnifique. À l'époque, on avait dit « on va faire quelque chose pour le sida ». Qu'est-ce que c'est devenu ?
Alors, la Russie a fait quelque chose à ce moment-là. Le président Poutine avait vraiment lancé une initiative de grande échelle. On avait eu une augmentation des budgets, on avait eu des actions de prévention. On avait vraiment eu beaucoup de choses qui commençaient à se passer en Russie. Et puis là, depuis 2008, tout est retombé. On se retrouve cette année avec un budget zéro pour la prévention du VIH.
Zéro rouble.
Zéro rouble, mais ça fait pas grand plus en dollars. Et c'est malheureusement une situation qui n'est pas tenable pour un pays comme la Russie, qui a un problème avec sa jeunesse, qui a un problème avec sa population, qui est en décroissance, qui a un problème de sécurité vis-à-vis de la société civile. C'est pas possible d'avoir presque 2 millions de drogués qui injectent et de ne pas avoir de prévention du sida pour eux.
Au point de vue traitement, au point de vue soins, comment ça se passe ?
Ça se passe pas tellement bien. On a eu une augmentation du nombre de gens sous traitement, mais depuis la crise économique de l'an dernier, les révisions budgétaires, le nombre de gens sous traitement n'augmente pas, alors que les nouveaux cas arrivent tous les ans. Et on se retrouve avec des listes d'attente, avec des gens qui n'ont pas accès aux médicaments. Et puis, comme la logistique est très difficile en Russie et n'est pas toujours bien gérée, on se retrouve avec des interruptions de traitement, des gens qui devraient être traités, qui pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, n'ont plus d'accès aux médicaments.
Quel pourcentage en Russie, par exemple, de patients qui devraient être traités et qui reçoivent des traitements effectivement ?
On considère que c'est un petit peu plus de 20% de ceux qui ont besoin du traitement qu'ils reçoivent, donc 80% qu'ils ne reçoivent pas. Et c'est nettement moins qu'en Afrique où on se retrouve avec souvent 40% des gens qui sont traités quand ils en ont besoin. Donc on a une situation grave et surtout une apathie fréquente de la part des autorités. Alors ça varie d'un pays à l'autre. On a dans certains pays une initiative remarquable, comme c'est le cas en Moldavie, comme c'est le cas au Kazakhstan, comme c'est le cas à un degré un peu moindre en Ukraine. Et puis on a des pays où la situation s'aggrave et où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et on retrouve ça en Ouzbékistan, en Russie, où réellement la situation du VIH est critique. Et on espère vraiment que les gouvernements vont entendre l'appel de cette conférence de Vienne et comprendre qu'il faut s'impliquer beaucoup plus dans la prévention du VIH et son traitement.
Le docteur Denis Brown est le directeur de la région Europe de l'Est et Asie centrale d'ONU-SIDA à Moscou. En 2000, la conférence internationale sur le sida faisait sa première et jusqu'à maintenant unique incursion sur le continent africain. C'était à Durban, en Afrique du Sud. C'est là que les groupes communautaires ont commencé à réclamer haut et fort des médicaments pour les malades des pays pauvres. 10 ans plus tard, dit le directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le docteur Michel Kazatchkine, 10 ans plus tard, on a des bonnes nouvelles.
C'est plus que des bonnes nouvelles. Vous savez, c'est maintenant 5,2 millions de personnes dans le monde en développement qui ont accès au traitement antirétroviral. Le traitement du sida, c'était zéro à Durban, mais même il y a 4 ans, c'était encore quelques centaines de milliers. Donc cette accélération est absolument extraordinaire et beaucoup des experts à l'époque de Durban non seulement doutaient de ce que ce serait possible, mais se demandaient même s'il fallait le faire.
On disait ça pourrait être dangereux, etc. Oui.
On disait les traitements sont trop coûteux, les malades n'arriveront jamais à les prendre. Il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas le personnel médical, et puis si on se dépêche trop de le faire, on va induire des résistances. Tout ça s'est avéré faux.
Et ce que vous dites, c'est que justement, on a non seulement mis 5 millions, plus de 5 millions de personnes sous traitement, comme on dit, mais on a fait la preuve, effectivement, qu'on peut faire les choses en grand, au fond. C'est ça la grande histoire.
Absolument. On a appris ce que nous appelons dans notre jargon on a démontré la faisabilité du passage à l'échelle. Des traitements que je prescrivais à l'hôpital universitaire comme professeur de médecine et qui étaient en France réservés à la prescription en milieu universitaire. Ces traitements, je les ai vus donner en Afrique du Sud, au Burkina Faso, par des officiers de santé avec un système auquel on s'est adapté. Le patient arrive, il rencontre un officier de santé qui lui pose 15 questions. Si le malade répond non à plus de 2 de ces questions, il va voir l'infirmière qui a elle-même 10 questions. Si le malade répond non à plus de 2 de ces 10 questions, il verra le médecin. On a appris à redistribuer les tâches et à faire en sorte qu'on puisse véritablement répondre aux besoins des populations périphériques. Il n'y a plus un seul pays dans le monde, un seul pays pauvre, ou même un pays en conflit. Je pense à l'Afghanistan, la Somalie, le Tchad, le Sud-Soudan, où il n'y ait pas une subvention du Fonds mondial qui permette actuellement aux gens d'accéder au traitement antirétroviral.
Mais tous ces progrès ne sont pas des acquis. Un gros nuage noir s'est même promené toute la semaine sur Vienne, ou en tout cas sur la conférence. Il n'est pas sûr que les pays donateurs vont continuer leurs efforts dans les années qui viennent. L'an passé, pour la première fois, ils ont même donné un peu moins que l'année précédente. Michel Kazatchkin s'en dit très inquiet.
Mon inquiétude a deux raisons. La première, c'est de penser aux enjeux. C'est un enjeu de vie ou de mort pour des millions de personnes. Et donc ma première source d'inquiétude, c'est l'ampleur et la gravité de ce qui est en cause. Et puis ma deuxième source d'inquiétude, oui, elle est très concrète. C'est que j'entends beaucoup de gens dire « oui, le Fonds mondial a vraiment... permis d'acheminer des ressources, a permis des résultats sans commune mesure avec peut-être ce qu'on pensait qui pourrait être atteint en 2001. Mais je ne sens pas quelque part encore la vigueur de l'engagement politique au plus haut niveau, surtout en période de crise, qui ferait que ces ressources, qui somme toute, sont pas énormément d'argent, n'est-ce pas ? Nous parlons de 17 milliards pour 3 ans ou de 20 milliards pour 3 ans. Ce sont des sommes à côté des milliers de milliards que la communauté internationale sait trouver lorsqu'il le faut, des sommes qui sont relativement modestes.
Et donc vous avez peur que effectivement qu'on ne réunisse pas la somme, comme on dit. Est-ce qu'il y a déjà des pays qui vous ont dit carrément non ? Il semble que l'Autriche, le pays hôte de la conférence du sida, n'est pas très collaboratrice, disons ça comme ça.
Alors aucun pays ne m'a dit non. Quant à l'Autriche, elle n'a jamais été un financeur du Fonds mondial. Et c'est le seul pays européen, en tout cas le seul des 15 des fondateurs de l'Union européenne, qui ne contribue pas au Fonds mondial. Je ne comprends pas comment un pays peut accueillir cette conférence internationale, comment le président autrichien peut dire ce qu'il a dit dans la séance d'ouverture et ne pas contribuer au Fonds mondial.
Et cette semaine, à Vienne, cette inquiétude était partagée par beaucoup de monde.
Françoise Girard, je suis directrice du programme de santé publique à Open Society Institute, qui est une fondation privée basée à New York, mais qui a des opérations dans une grande partie du monde en voie de développement et de l'ex-bloc soviétique. Moi aussi, je suis inquiète, je dois vous le dire, parce que le Fonds mondial a une conférence au mois d'octobre où les bailleurs de fonds doivent faire leurs promesses renouvelées pour 3 ans. Et au minimum, ils ont besoin, pour vraiment faire ce qui doit être fait, ils ont besoin de 20 milliards de dollars. Pour l'instant, les gouvernements disent on va peut-être donner 10 milliards. Quand on réfléchit à l'argent qui a été donné pour renflouer Wall Street et la Grèce, etc., aux États-Unis, il y avait un programme qui s'appelait Cash for Clunkers, et c'était l'argent qu'on donnait aux gens pour qu'ils puissent échanger leur vieille voiture, leur vieille bagnole pour une nouvelle bagnole. Le gouvernement américain, il y a quelques mois, a dépensé 2 milliards en 2 jours pour ça. Alors, tout ce qu'ils auraient besoin de faire pour renflouer le Fonds mondial, c'est au lieu de donner 3 milliards sur 3 ans, c'est de donner 6 milliards sur 3 ans. Mais ils disent qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, c'est vraiment inquiétant, effectivement. Et ce que je dis qui est nécessaire, et ce qu'on fait ici, c'est vraiment de s'assurer de continuer à faire pression, de ne pas abandonner la partie, de ne pas jeter l'éponge avant le mois d'octobre. Parce que, quant à moi, ce n'est pas fini. Et il faut continuer à faire pression sur les gouvernements pour qu'ils remplissent les engagements qu'ils avaient pris en 2005 à Glen Eagles et aux Nations Unies en 2006.
Le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, se transmet par voie sexuelle, mais aussi, et c'est de plus en plus fréquent, par voie sanguine, avec les drogues injectables. On l'a vu pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, mais c'est tout aussi vrai dans nombre d'autres pays. La situation est alarmante à un point tel que cette semaine, la revue britannique The Lancet a lancé à Vienne un numéro spécial sur cette question de santé publique, 120 pages bien tassées sur l'état des connaissances en la matière. L'épidémiologiste Patrizia Carrieri de l'Université d'Aix-Marseille en France y signe un article sur le traitement des usagers de drogues injectables porteurs du virus.
Ces pays que nous avons examinés sont la Chine, le Vietnam, la Malaisie, la Russie et l'Ukraine. Évidemment, il y a un peu d'espoir parce que, par exemple, en Chine, ils sont en train de commencer un énorme programme d'accès à la méthadone. Et on sait bien que les Chinois étaient extrêmement contraires au traitement des substitutions. Donc, il y a quelque chose qui change. Et nous avons beaucoup d'espoir pour d'autres pays, pour l'accès aux soins pour les usagers des drogues. Parce qu'en même temps, c'est un sujet qui n'est pas seulement important sur le point de vue des droits humains, mais aussi en termes économiques, parce que ça coûte moins cher de traiter ces personnes que de ne pas les traiter.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans toutes les études qu'on fait ou dans toutes les remarques qu'on peut faire, c'est de dire, bon, souvent, est-ce que des usagers de drogue qui vont être sous antirétroviraux vont bien suivre leur traitement? Est-ce qu'ils ne vont pas développer des résistances, etc.? Quand on regarde la littérature, les articles scientifiques publiés, on voit que ce n'est pas ce qui se passe.
Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, même au début, les médecins étaient reluctants à prescrire des traitements antirétroviraux aux usagers des drogues, parce qu'ils avaient peur qu'ils n'allaient pas être observants, et surtout qu'il y avait une épidémie de résistance, c'est ce qu'ils disaient. Et en fait, la littérature montre que surtout si la dépendance aux opiacés est prise en charge à travers des traitements de substitution, il y a beaucoup de probabilités que la personne arrive à être observant au traitement, exactement comme tous les autres groupes de transmission. Et on voit bien que la substitution, le temps sous substitution a un impact aussi sur la réponse virologique à long terme. Donc disons qu'il y a toute une série d'arguments pour dire que bien traiter un patient qui a des comorbidités comme la dépendance aux opiacés et le VIH permet de maximiser la réponse aux deux traitements.
Donc ce numéro spécial du Lancet vient appuyer au fond cette idée que du côté de la science, la preuve est faite, il faut vraiment faire à la fois des traitements de substitution et à la fois des traitements antirétroviraux pour les usagers de drogue, parce qu'effectivement, ça aide à tous les points de vue.
Oui, tout à fait. En fait, même les traitements antirétroviraux ont un impact sur le risque de transmission VIH, parce qu'en fait, ils permettent aussi de réduire les comportements à risque d'injection et les comportements à risque sexuels. Également, ils protègent de la transmission sexuelle du VIH les autres. Donc, en termes de positive prevention, ce qu'on appelle, c'est extrêmement important.
Quand on voit le dossier, au fond, quand on regarde le dossier scientifique, comment est-ce qu'on peut encore expliquer, vous comme chercheur, comment vous expliquez le fait qu'il y ait autant de résistance à l'idée de faire des traitements de prévention, des traitements de substitution, à l'idée de s'occuper de ces populations-là d'un point de vue vraiment médical, bien organisé?
Ben, il y a toujours des résistances parce qu'il y a un problème de stigmatisation et même criminalisation de ces populations qui existent partout. Hein. Et disons que cette problème de stigmatisation devrait être, c'est la chose qu'il faut combattre davantage. Et ça, on peut le faire seulement à travers une politique de réforme sur les drogues, parce que c'est seulement à travers des politiques au niveau national qu'on arrive à changer les choses. Donc, c'est vrai que un exemple important est l'Ukraine, parce que où la société civile, donc les associations de patients, se sont bien organisées pour faire valoir leurs droits. Et ça a apporté l'initiation d'un certain nombre de programmes de substitution à la buprénorphine, à la méthadone, une augmentation de l'accès aux antirétroviraux pour les usagers des drogues. Donc je pense que le rôle que la société civile peut jouer est extrêmement important.
L'épidémiologiste Patrizia Carrieri de l'université d'Aix-Marseille qui me faisait remarquer le cas de la France qui, au milieu des années 90, a opté pour une politique avant-gardiste systématique de réduction des risques pour les usagers de drogues injectables et qui en tire aujourd'hui tous les bénéfices avec moins de 2% des nouveaux cas de contamination attribuables à ces pratiques. Mais pour changer d'approche en matière de drogue, comme on devrait d'ailleurs le faire au Canada où les gouvernements n'ont pas encore compris le message des scientifiques, il faut aussi parler de droits humains. De nouveau, Françoise Girard, directrice du programme de santé publique de l'Open Society Institute à New York.
On doit en parler parce que malgré les avancées qui sont vraiment notables en matière de traitement, d'accès aux soins, etc., il y a encore des obstacles importants à l'accès aux soins dus aux violations des droits de la personne et aux abus qui sont que vivent les gens en particulier qui sont de groupes qui sont socialement exclus. On pense par exemple aux travailleurs du sexe, aux homosexuels, aux personnes trans, aux prisonniers, aux migrants. Ces gens-là, évidemment, subissent toutes sortes de sévices aux mains de la police dans les pays où ils résident souvent doivent vivre, disons, cachés ou pour éviter d'être arrêtés et d'être extorqués par les autorités. Et ces gens-là, évidemment, ont de la difficulté à avoir accès aux soins de santé, par définition.
Et quand on parle d'usage de drogue, il y a justement cette déclaration de Vienne, hein, qu'il faut peut-être expliquer un peu ce que c'est cette déclaration de Vienne, donc signée, émise à l'occasion de cette conférence internationale sur le sida. La déclaration de Vienne, donc.
Oui, c'est une déclaration qui a été mise par la conférence, au nom de la conférence. C'est assez exceptionnel, ça arrive très rarement qu'on ait un accord de toutes les parties impliquées, c'est-à-dire les scientifiques, les activistes, les cliniciens et les personnes qui siègent au sein du conseil de la conférence qui inclut certains gouvernements. C'est pas évident d'obtenir leur accord, mais ce qu'on dit, c'est que la guerre contre les drogues illégales nuit à la lutte contre le sida. C'est clair, la preuve est claire, et que de poursuivre les usagers de drogue en rendant leur usage de drogue, qui souvent est dans certains cas peut être une maladie, certainement une accoutumance qu'il faudrait traiter par d'autres moyens, que de faire la guerre aux usagers de drogue et donc aux drogues nuit à la lutte contre le sida et donc à la santé, au droit à la santé des gens.
Beaucoup de science cette semaine à la conférence sur le sida, beaucoup de recherches comme d'habitude. Alors j'ai choisi de vous parler de deux des sujets qui ont été abordés parce qu'ils sont deux exemples de ce qui se fait aux deux extrêmes du spectre. D'un côté, une technologie simple, sans doute promise à un usage très courant, je parle du gel microbicide testé en Afrique du Sud, et de l'autre, une technologie très sophistiquée destinée à une utilisation plus restreinte, et je parle du vaccin thérapeutique sur lequel travaille une équipe de Montréal. Pour commencer, le gel, avec l'infectiologue Yazdan Yazdanpana de la faculté de médecine de Lille, en France.
Il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour essayer d'avancer sur le terrain des microbiocides. Et il y a eu jusqu'à maintenant 7 essais cliniques qui ont montré des résultats négatifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas montré d'efficacité des microbiocides par rapport au placebo. Et c'est la première fois que cette stratégie est montrée efficace, puisque les résultats montrent que ça pourrait diminuer de 40% le risque de transmission de l'infection par le VIH.
Et ça, c'est sur une période quand même de quelques mois ou presque 2 ans pour certains sujets. Est-ce que c'est, quand on regarde là, les chiffres vraiment avec, à la loupe, là, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous?
Si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est une nouvelle stratégie de prévention qui s'ajoute à d'autres stratégies de prévention, les préservatifs, la circoncision. Donc 39%, c'est pas énorme, mais à la fois c'est énorme parce que ça s'ajoute aux autres stratégies de prévention.
Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce microbicide, justement? Parce que les autres, c'était d'autres produits. Vous avez dit 6 ou 7 autres essais, plusieurs produits. Lui, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a de spécial?
Effectivement, il y a eu un changement de stratégie sur le produit utilisé, puisque c'est la première fois qu'on utilise des traitements antirétroviraux que les patients prennent pour leur maladie.
Donc un médicament dans le gel.
Il y a un gel, et là, il y a un médicament qui est le tenofovir, à 1%, à une concentration d'1% dans le gel, que la femme injecte dans les 12 heures avant un rapport, puis dans les 12 heures après le rapport, qui diminuerait le risque de transmission.
L'accueil ici à cette conférence internationale sur le sida, la place que ça prend au fond dans les nouvelles, comment vous pourriez résumer ça?
Alors je dirais que c'est l'événement majeur de ce congrès. Je me rappelle il y a 3-4 ans, il y a des investigateurs qui ont présenté les résultats négatifs d'un essai. Ils étaient quasiment en larmes. Là, c'était exactement l'inverse. Il y a eu un standing ovation dans la salle pour les gens qui ont présenté. Et on avait l'impression qu'il y avait une victoire de plus dans la lutte contre le VIH.
Il y a aussi le fait que ce n'est pas un produit comme les autres. Pour une fois dans la lutte contre le sida, c'est un produit qu'utilisent les femmes. C'est quoi l'importance de ça pour vous?
Effectivement, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est que les préservatifs, c'était surtout un outil pour l'homme. Il y avait les préservatifs féminins, mais c'était beaucoup plus compliqué à utiliser. Et là, pour la première fois, la femme a une stratégie pour pouvoir lutter contre le VIH, sa propre stratégie, sa stratégie à elle.
L'infectiologue Yazdan Pana de la faculté de médecine de Lille. Alors plus complexe maintenant, le vaccin thérapeutique. On devrait en fait parler d'un traitement d'immunothérapie spécifique sur lequel travaillent l'hématologue Jean-Pierre Routy et ses collègues au Centre universitaire de santé McGill à Montréal. Écoutez bien, c'est du grand art. Alors ça commence avec les cellules du système immunitaire que le virus attaque le plus, qu'il détruit, les CD4.
L'idée, c'est de court-circuiter la nécessité d'utiliser ces cellules helper, les CD4, en stimulant directement les cellules tueuses, qu'on appelle les CD8, ou cellules cytotoxiques. Et ces cellules sont stimulées par des cellules très complexes, qu'on appelle des cellules dendritiques. Dendritiques, ça veut dire qu'ils ont des ramifications comme des branches d'arbres. Et ces cellules sont rares, passent un petit peu dans le sang. Et on collecte ces cellules par une machine trieuse de globules blancs, qu'on appelle leucaphérèse, qui ressemble à une sorte de machine de dialyse, où on prend que les globules blancs du patient, qu'on sélectionne. Cette poche de petits globules blancs que l'on a est envoyée aux États-Unis, dans le cas présent, à la compagnie qui s'appelle Argos Therapeutics et qui va modifier ces cellules qui présentent l'antigène, les rendre beaucoup plus fortes, beaucoup plus nombreuses avec une sorte d'engrais, avec des cytokines qui vont faire pousser ces cellules. Et ce qui est très original, c'est qu'on va mettre le virus inactivé de chaque patient. Donc les 4 gènes du virus inactivé sont mis. Donc c'est vraiment une immunothérapie pour chaque personne, c'est ce que j'appelle de la haute couture. Et donc, on dessine le vaccin pour chaque personne avec le virus du patient et les cellules présentatrices de l'immunité, qu'on appelle cellules dendritiques, du même patient. On nous retourne par avion ces cellules, on les injecte sous la peau près des aires ganglionnaires, notamment sous le bras, c'est là où il y a les ganglions du bras. Et ces cellules dans les ganglions, qui représentent un peu comme des ports d'attache des cellules immunitaires qui circulent dans le sang et se réfugient dans ces ganglions pour travailler, à ce moment-là, la cellule dendritique va donner l'information aux cellules tueuses CD8 sans avoir besoin de l'aide des CD4 et on présente, si vous voulez, le virus comme sur un plateau, tout prêt, tout propre, tout beau. Et la cellule CD8 est plus à même de lire l'information parce qu'elle est digérée, elle est présentée, elle est mise en page par ces cellules.
Donc c'est une thérapie parfaitement personnalisée. Avec quel résultat?
Alors les résultats sont encourageants d'abord parce que c'est faisable, y compris dans des cliniques privées, comme à la clinique du Quartier Latin, clinique l'actuelle où ces cellules sont réinjectées. Donc c'est quand même relativement facile, si vous voulez, au niveau d'injection sous la peau. Et on a demandé donc aux patients, après avoir reçu 4 injections, une par mois pendant 4 fois, d'arrêter la trithérapie pour voir. Parce que la vraie preuve, c'est que l'immunité soit plus forte, mais qu'ultimement, que cette force de l'immunité augmentée soit utile, c'est-à-dire bloque vraiment le VIH. Alors ce qu'on a vu, c'est que pour à peu près un tiers des patients, le virus est revenu au niveau d'avant la trithérapie, donc a priori ça n'a pas trop bien marché, mais pour les deux tiers, le virus est redevenu plus faible, et pour un tiers, est redevenu excessivement faible, presque au-delà de nos espérances.
Et est-ce qu'il y a des patients qui sont sans médicaments anti-VIH depuis longtemps ?
Alors le plus long patient est toujours sans médicaments depuis 19 mois, avec un virus qui est à peu près 50 fois plus faible qu'avant traitement, ce qui lui permet de garder des cellules CD4 très fortes, donc de ne pas être malade à cause du VIH. Il est aussi surveillé par l'équipe clinique et d'être libre de thérapie depuis bientôt 2 ans. Les autres patients sont restés 6 mois, 9 mois sans thérapie et certains, le virus est redevenu plus fort, un petit peu comme avant, et on a, pour des raisons de sécurité bien sûr, demandé à la personne de reprendre sa trithérapie.
Des travaux, comme on dit, très prometteurs à suivre donc. C'était Jean-Pierre Routy, hématologue au Centre universitaire de santé McGill à Montréal. L'avenir maintenant, l'avenir qu'on peut voir comme menaçant, on l'a dit, à court terme pour le financement des programmes d'accès aux médicaments par l'aide internationale, mais qu'on peut voir aussi avec un optimisme raisonnable, comme veut le faire, par exemple, le nouveau directeur exécutif d'ONU-SIDA, Michel Sidibé.
Moi, je crois qu'il faut vraiment avoir cette révolution de la prévention. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de changer complètement. Et on a déjà l'exemple des jeunes qui ont démontré dans les pays les plus touchés en Afrique, les 16 pays les plus touchés, qu'on peut réduire la prévalence de 25%. Et cette prévalence, elle a chuté, et non pas parce que on a fait de la prévention classique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à la disposition des jeunes qui l'ont demandé une éducation sexuelle qui leur permettait de s'équiper, de pouvoir négocier leur sexualité de façon responsable. Et ça, c'est important. Deuxièmement, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il nous faut être plus ciblés dans nos approches. On ne peut plus continuer à croire qu'on va avoir des résultats parce qu'on va envoyer des messages de prévention partout. Il nous faut identifier les points chauds, combiner les outils que nous avons, que ce soit la circoncision, que ce soit le préservatif masculin ou le préservatif féminin, et même cette nouvelle découverte du gel. Donc il faut prendre tous les outils et constituer un arsenal combiné, et cela va nous permettre d'aller à l'échelle. Mais troisièmement, la révolution de la prévention ne se fera que si nous mettons la lutte pour les minorités au centre. Aujourd'hui, nous voyons que les populations les plus vulnérables sont stigmatisées, discriminées et sont généralement même considérées comme des criminels. Je pense aux travailleurs des sexes, je pense aux populations migrantes, je pense aux populations qui utilisent la drogue et je pense surtout aux homosexuels. Donc aujourd'hui, ces lois homophobiques, ces mauvaises lois qui existent, on doit travailler pour faire en sorte qu'elles n'existent pas, sinon la révolution de la prévention ne sera pas une réalité.
L'autre grand changement que vous demandez, c'est en matière de traitement, de médicaments. Vous rêvez, on parle d'un rêve, hein, d'une nouvelle approche.
Je crois que c'est un rêve basé sur une analyse de la réalité, de l'évidence. J'estime qu'aujourd'hui, on a fait des progrès extraordinaires avec la solidarité mondiale. Aujourd'hui, on a à peu près 16 milliards de dollars pour la lutte contre le sida. Cela a produit des résultats. On a plus de 5 millions de personnes sous traitement. On a réduit le nombre de nouvelles infections de 17%. Mais on sait qu'il y a 10 millions de personnes qui attendent le médicament. Et on sait que la logique actuelle, c'est de passer de la première ligne, qui coûte pas cher vers un traitement de deuxième ligne, de troisième ligne qui coûte très très cher et que ce ne sera pas pérennisable sur le long terme et qu'on ne pourra pas atteindre l'accès universel. Et pour atteindre l'accès universel, ce que je propose, c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler avec les firmes pharmaceutiques, qu'on puisse travailler avec les politiques pour proposer une nouvelle génération de traitement avec une pilule simplifiée, une pilule qui coûterait moins cher, une pilule qui en définitive serait moins toxique et éviterait de créer de la résistance et nous permettrait d'avoir les patients de première ligne sur une période beaucoup plus longue, et ce qui serait pour moi une révolution en soi parce qu'on irait plus rapidement vers l'accès universel, et cela peut sans aucun doute amener au centre du débat la question du traitement comme une prévention.
Le directeur exécutif de Nucida, Michel Sidibé. Et toujours pour parler d'avenir, il faut bien évoquer cette arithmétique implacable du sida. Il y a 34 millions de personnes infectées par le virus, auxquelles 2 autres millions de personnes s'ajoutent chaque année. Et celles qui sont sous traitement le sont à vie. Dans 10 ans, dans 20 ans, si l'on ne trouve pas d'autres moyens de les prendre en charge, ce sera intenable, même avec des médicaments peu chers. Il faut donc chercher, mieux chercher, et on a cette semaine entendu le mot presque tabou jusque-là, chercher à guérir l'infection. Ma dernière invitée n'aime pas trop ce mot-là de guérison. Elle lui préfère prudemment celui de rémission à long terme. Elle s'appelle Françoise Barré-Sinoussi, elle est virologiste à l'Institut Pasteur à Paris et prix Nobel de médecine pour ses contributions à la découverte du virus du sida. Elle croit qu'il faut chercher à comprendre plus finement les mécanismes de persistance du virus, notamment ses réservoirs où il se terre bien à l'abri du système immunitaire et bien à l'abri des médicaments. Françoise Barré-Sinoussi.
Qu'est-ce que c'est que ces réservoirs? Il y a deux choses finalement. Chez les patients sous traitement, là on parle de patients sous traitement, il y a une petite réplication à bas bruit dans certains compartiments du corps.
Par exemple,
l'intestin ou encore le système nerveux central. Et cette réplication à bas bruit, eh bien à l'arrêt du traitement, comme il y a encore un tout petit peu de virus produit, dès que le patient arrête le traitement, cette réplication n'est plus du tout contrôlée et donc ça va affecter d'autres cellules et à ce moment-là, ça se met à réexploser. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi quand on arrête le traitement, ça repart. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle, et là c'est surtout ça qu'on appelle les réservoirs, c'est les cellules qui contiennent le virus dans le matériel génétique de certaines sous-populations de lymphocytes CD4. Que l'on commence à bien connaître, c'est les centrales mémoire et c'est les cellules transitoires centrales mémoire, majoritairement. Et ce virus, il est là caché et ces cellules qui ont le virus caché dans leur matériel génétique, d'une part, elles survivent et d'autre part, elles prolifèrent.
Et on est capable de les repérer? Est-ce qu'elles ont des signes extérieurs disant qu'elles portent effectivement un virus ou si elles sont vraiment des fantômes?
Alors, c'est un sujet de recherche qui a été aussi discuté ici. Il y a certains marqueurs, par exemple, il y a une présentation qui a décrit une équipe canadienne qui disait qu'elles ont un marqueur qu'on appelle PD1. PD1, c'est un marqueur d'activation et que ces cellules, qui sont majoritairement les réservoirs, ont ce marqueur PD1 à leur surface. Donc c'est peut-être un moyen de les repérer. Une autre équipe disait qu'elles n'ont pas certains marqueurs qui sont associés à une circulation de ces cellules au niveau de l'intestin. Donc il y a un certain nombre de marqueurs qui commencent justement à être identifiés et dont on a parlé au workshop 2 jours avant la conférence. Vous demandiez aussi quels compartiments. Les compartiments, il y en a beaucoup, hein. En dehors du sang, il y a l'intestin, il y a les ganglions, il y a la moelle, il y a le thymus, il y a le système nerveux central. Donc il y en a un peu partout, hein, ces réservoirs viraux. Et dans le système nerveux central, il a été décrit ici que les astrocytes, par exemple, constituent des réservoirs et qu'il y a une association avec les encéphalopathies ou les démences que l'on peut voir chez les patients en fonction de la présence du virus dans les astrocytes.
Ce qui veut dire que ce virus, à l'état latent ou dormant, il dort dans beaucoup d'endroits, donc ça montre que ça ne sera pas facile d'aller l'attraper.
Ça ne sera pas facile pour les traiter, mais on commence à comprendre les mécanismes. Pourquoi il est là et il ne sort pas?
On se dit, forcément, c'était les questions de base qu'il fallait se poser ou qu'on devait se poser dès le départ. Et on a l'impression qu'on commence seulement, je dirais pas à travailler là-dessus, c'est sûr, mais à les mettre de l'avant, ces questions-là et ces travaux-là et ces recherches-là. Est-ce que je me trompe en disant qu'on n'a pas assez travaillé là-dessus, pas assez mis d'efforts?
Il y a depuis longtemps, quand même, des recherches sur ce sujet. C'est vrai que c'était peut-être pas autant. Vous savez, par exemple, pour le vaccin, il y a un consortium international, il y a la Global HIV Vaccine Enterprise. Il n'y a pas l'équivalent pour les réservoirs et les stratégies pour éliminer ou diminuer les réservoirs. Ça, pour l'instant, il n'y a pas. Et puis, il y a autre chose. Il y a essayer de simuler les bailleurs de fonds, j'allais dire, pour qu'ils fassent des appels d'offres ciblés sur ce sujet. D'autre part, mieux organiser la collaboration internationale sur ce sujet. Et troisièmement, si ça paraît peut-être aujourd'hui, c'est qu'on a de nouvelles technologies aussi, qu'on n'avait pas autrefois, et qui nous permettent d'aborder des questions qu'on ne pouvait pas aborder.
Vous avez effectivement des outils de laboratoire qui vous permettent de faire ça?
Mais bien évidemment, je veux dire, avec tout le développement de la génomique, de la post-génomique, la protéomique, bien évidemment, tout ce que je vous disais sur l'identification de facteurs cellulaires, par exemple, qui jouent un rôle important dans le complexe pour bloquer ce virus à l'intérieur, ça joue un rôle extrêmement important, bien évidemment.
En terminant, on voit qu'il y a une mobilisation qui se fait. On a vu que les activistes commencent à rentrer dans la partie, ce qui est toujours bon signe, dans le domaine du sida, et à dire le NIH, par exemple, donc le subventionneur américain, ne dépense pas assez d'argent pour la recherche d'un médicament pour guérir ou pour mettre le sida en rémission. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'ils ont complètement raison. Je partage complètement leur avis. Et c'est vrai aussi que si on remobilise tout le monde, et y compris les représentants de patients, c'est que d'une part, pour avancer dans la recherche, on va avoir besoin d'eux. Parce que, bien évidemment, à un moment, il va falloir faire des essais thérapeutiques. Et les essais thérapeutiques, on va passer justement par les représentants, les communautés de patients eux-mêmes pour porter le message. Et d'autre part, pourquoi aussi on s'y intéresse de plus en plus? C'est que, vous savez que quand on parle maintenant traitement et prévention, c'est indissociable. On sait très bien quand on diminue la quantité de virus dans le corps, maintenant on le sait, ce qu'on ne savait pas il y a quelques années, c'est aussi de la prévention. Donc pour nous, traitement et prévention, c'est un même paquet. Donc si on a un traitement qui permet de diminuer complètement la quantité de virus chez les patients, mais aussi les réservoirs viraux, et que ce soit un traitement bien toléré, pendant simplement une durée courte chez les patients, ça sera un bénéfice pour tout le monde. Pour les patients, bien sûr, parce qu'ils n'auront pas un traitement à vie. Il n'y aura peut-être pas les complications sur le long terme qu'on commence à voir chez les longs traitements. Et puis, ça sera forcément beaucoup moins coûteux. Il sera un double bénéfice, prévention et traitement, puisque les patients ayant moins de virus, ils ne transmettront plus.
C'était Françoise Barré-Sinoussi, virologiste à l'Institut Pasteur à Paris et prix Nobel de médecine.
C'était un reportage de Yannick Villedieu à la conférence internationale sur le sida qui se déroulait cette semaine à Vienne. Prochain rendez-vous dans 2 ans à Washington, aux États-Unis. Et voilà, c'est tout pour la première heure des Années Lumière. Un mot pour vous dire que ce soir à 18h30 à la télévision de Radio-Canada, l'émission Découverte vous propose entre autres sujets la 6e extinction de l'histoire de la vie, une extinction massive des espèces dans laquelle cette fois l'homme jouera un rôle et pas seulement les cataclysmes naturels. D'ici là, restez des nôtres à la radio pour la suite de notre émission après le bulletin de nouvelles. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, re-bienvenue, ici Sophie André Blondin pour vous présenter la suite de votre magazine d'actualité et de culture scientifique. Au menu de cette deuxième heure, la biodiversité avec la poursuite de notre série estivale. Cette semaine, nous partons à la pêche aux connaissances, sur l'Omble de Fontaine, dans les lacs du Bouclier Laurentien. Ensuite, une rediffusion, celle de l'entrevue qu'a réalisée Chantal Srivastava avec Pierre Rabhi lors de son passage à Montréal. Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain, penseur, pionnier de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie et aussi la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Et pour terminer, l'auteur de la semaine, Jean-François Narbonne, signe 100% toxique aux éditions Thierry Soucard, sans comme dans celui qui coule dans nos veines agrémenté de quelques produits toxiques, nous expliquera-t-il. Mais tout d'abord, la série des années-lumière. Six milliards d'espèces, une planète. Pour souligner la vitalité ou la précarité des quelques 6 milliards d'espèces vivantes qu'abritent la Terre, 2010 a été décrétée année mondiale de la biodiversité. Nous diffusons donc tout l'été une série de reportages dans lesquels nous allons à la rencontre des scientifiques qui, sur le terrain, étudient différentes espèces, étudient différents habitats. Cette semaine, nous partons vers les lacs du Bouclier Laurentien, où une espèce, l'omble des fontaines, la truite mouchetée si vous préférez, s'est séparée en deux formes différentes. Ces deux formes donneront un jour deux espèces distinctes. Le biologiste Pierre Magnan, titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie des eaux douces, documente ce phénomène depuis plusieurs années. Il assiste en quelque sorte à l'évolution, en direct, par télémétrie. Pour comprendre les comportements des poissons, son équipe pose des émetteurs dans les truites, une chirurgie qui se fait sous anesthésie à l'huile de clou de girofle, n'ayez crainte. Avec Pierre Magnan et avec ses étudiantes de l'Université du Québec à Trois-Rivières, je suis donc partie à la pêche, aux connaissances.
Il y en a toute une zone littorale ici. Là, je vous ai emmené au lac Ledoux, qui est un lac d'environ 1 kilomètre de long, dans la réserve Mastigouche, donc par l'entrée là, de Saint-Alexis-des-Monts.
Et pourquoi est-ce qu'on vient ici? Pourquoi c'est votre terrain d'étude à vous ici?
Donc moi, je m'intéresse à l'omble de fontaine, que les gens appellent souvent la truite mouchetée. C'est une espèce qui a colonisé les lacs du Bouclier Laurentien. Et là, ici, on est au cœur du Bouclier Laurentien, donc c'est ici que sont arrivées les truites mouchetées il y a 15 000 ans.
Mais semble-t-il, il y a plus d'espèces de truites qu'il y en avait il y a 15 000 ans. En tout cas, c'est ce que vous avez l'impression de voir en ce moment.
Oui, effectivement. En fait, ce qu'on a découvert aux alentours de 1990, c'est qu'il y avait deux formes de truites mouchetées dans les lacs du Bouclier Laurentien. Donc, on a une forme que l'on retrouve au centre du lac, donc qui va s'alimenter de zooplancton, qui sont de tout petits organismes. Et on a une autre forme, qu'on appelle la forme littorale, qui va venir s'alimenter dans les zones peu profondes. Donc, ce qu'on pourrait appeler la forme du bord du lac. Et donc, ces deux formes-là ne sont pas encore deux espèces différentes, mais lentement, mais sûrement, commencent à s'isoler au niveau de la reproduction. Et d'ici 1000 ans, quelques milliers d'années seront devenues deux espèces différentes, sans doute.
Ce sera d'autres chercheurs qui vont constater la différenciation.
Oui, tout à fait. Comme mon père me disait, lorsque les truites seront deux espèces, les eaux nous feront plus mal.
Pour voir comment vous faites ça, comment vous avez déterminé ça, comment vous travaillez, bien là, il faut se mettre à l'eau.
Oui, tout à fait. Donc, on va aller sur le lac. Ça va me permettre de mieux vous expliquer là, comment tout se passe et comment on fait ça. Ariane, une chose que tu peux faire, c'est aller chercher. Il y a deux rames.
OK.
En dessous de la barge bleue.
Oui.
Ariane, tu essaieras d'accrocher le bord du radeau. Donc ici, on est à un des deux radeaux qui est sur le lac. Donc sur ces radeaux-là, on a un boîtier, comme vous voyez ici, qui est complètement hermétique. À l'intérieur du boîtier, on a un capteur de signal. Ça va capter les signaux des émetteurs télémétriques qu'il y a dans les poissons. La fréquence du beep, selon une courbe de calibration, nous donne la température exacte du poisson, la température ambiante. Et donc, connaissant le profil thermique du lac, ça nous permet d'aller estimer la profondeur du poisson.
Alors là, vous parlez bon, de poissons, bien sûr, d'émetteurs, de stratification thermique. On va reculer un peu, puis expliquer le lien entre la biodiversité et ce que vous êtes en train d'étudier ici, de constater ici. Quand on parle de biodiversité, on a rencontré beaucoup de chercheurs qui travaillent à conserver la diversification des espèces. Vous, vous êtes en train de l'observer en direct d'une certaine façon.
Oui, en fait, ce qu'on est en train d'observer en direct, c'est la séparation, la diversification d'une espèce en deux espèces. Donc ça, c'est tout à fait fascinant. Parce que là, on assiste à l'évolution en direct. Ce sont des systèmes, ces espèces-là, qui nous permettent de voir comment l'évolution fonctionne. Quelles sont les forces évolutives qui vont agir pour mener à la création de deux espèces ou à la séparation d'une espèce en deux espèces.
Et là, vous avez décidé d'approfondir le sujet. Et c'est pour ça que vous mettez des émetteurs sur des poissons et que vous regardez la profondeur à laquelle ils se trouvent.
En fait, c'est exactement ça. Donc là, on sait, on a observé qu'il y avait deux formes. Donc, on a la forme du bord du lac, qu'on appelle la forme littorale, et la forme du centre du lac, qu'on appelle la forme pélagique. Ça, c'est un fait qui est acquis. Maintenant, on veut comprendre pourquoi c'est comme ça. Et un facteur qui est très intriguant ici, c'est qu'on observe, dans un système quand même qui est assez jeune, 15 000 ans, c'est jeune en termes d'évolution, sur la principale frayère du lac, qui est située juste là, on a observé que les poissons littoraux arrivent en premier. Donc, dans les deux premières semaines de la période de reproduction à l'automne, on n'a que des littoraux, ou presque. Par la suite, vers le milieu de la période de reproduction, on retrouve les deux en présence. Donc, il y a un recouvrement, mais à la fin, on n'a que les pélagiques. Et donc, maintenant, on veut comprendre quel est le mécanisme qui permet d'expliquer ça. Pourquoi les littoraux arrivent en premier et les pélagiques arrivent par la suite? Une de nos hypothèses, c'est que ça serait dû à une exposition à des températures plus chaudes par les littoraux. Donc, les littoraux font l'expérience d'un bilan thermique plus élevé pendant l'ensemble de la période estivale, en allant s'alimenter dans les zones peu profondes. On sait, d'autre part, dans la littérature, que la maturation des gonades via le système hormonal endocrinien des poissons est affectée par la température. Donc, plus il fait chaud, plus la femelle, par exemple, va maturer plus vite. C'est tout à fait fascinant parce que si c'est la température qui est responsable de ce mécanisme-là, donc d'une maturation plus rapide des littoraux, et ce qui fait qu'à un certain moment donné, bien, les femelles doivent se pointer sur les frayères et aller se reproduire parce qu'elles sont mûres, elles sont prêtes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un facteur de l'environnement qui devient précurseur de la séparation de nos deux formes. Puis si on extrapole un tout petit peu plus, bien, les changements climatiques vont avoir un effet un peu pernicieux, c'est qu'ils vont accélérer la diversification de nos deux formes parce que on sait, il y a des modèles qui nous permettent de prédire que un des effets des changements climatiques, ça va être d'augmenter la température des eaux de surface dans les lacs du bouclier laurentien. Et donc, ça va affecter une seule des deux formes. Ça va affecter la forme littorale. Et donc là, le processus de maturation accéléré des littoraux va être encore plus important. Et donc, la séparation va se faire de plus en plus vite. Et le jour où les deux formes ne seront plus en contact, là, les processus génétiques vont se mettre en marche et là, il y aura, à un moment donné ou à un autre, une mutation qui va faire que les deux formes ne pourront plus se reproduire et deviendront deux espèces, en fait.
Tu peux laisser le radeau aller?
Oui. OK. Oui, je fais attention, ça, je vais y aller de plus long.
Mon nom est Ariane Charaoui, puis je suis une étudiante à la maîtrise de Pierre Magnon. Je vais faire des prises de sang. Mon projet est plus axé sur la physiologie des poissons. Donc, je vais faire des prises de sang, puis en laboratoire, je vais faire des dosages d'hormones, justement pour vérifier si les littoraux ont une maturité gonadique plus avancée par rapport à la forme pélagique.
Et là, Pierre Magnon, on est toujours à côté de ce radeau dans le milieu du lac Ledoux, à côté de cet appareillage qui vous permet de voir votre objet d'étude, parce que vous, les poissons, vous ne les voyez pas.
Tout à fait, on ne les voit pas. Donc, ce qui nous intéresse ici, ce sont deux choses. Donc, je vous parlais tout à l'heure du bilan thermique saisonnier, donc pour l'ensemble de l'été, de nos littoraux comparativement aux pélagiques. Mais là, ici, on a le capteur de signal va aller chercher une mesure de température à chaque 30 minutes sur chacun des 30 poissons qu'il y a dans le lac. Actuellement, on a 15 poissons pélagiques et 15 poissons littoraux qui ont dans l'abdomen un tout petit émetteur qui pèse à peine 4 grammes et qui émet des sons. Et plus il fait chaud, plus la fréquence des sons est élevée. Et chaque poisson a une courbe de calibration, température versus fréquence de l'émission de ces sons. Et ça, c'est capté ici par le capteur de signal. Et ça lui prend 30 minutes. Donc, il doit s'arrêter une minute sur chacun des poissons. En fait, c'est aussi simple que ça.
Alors, en ce moment, en dessous de nous, il y a 30 des milliers de poissons du lac qui portent ces petits émetteurs.
Oui, tout à fait. Donc, et qui sont des individus représentatifs de chacune de leurs formes. Et donc, c'est une technologie qui nous permet finalement d'avoir une représentation de ce que font nos poissons, même si on ne les voit pas.
Alors, cet appareil-là vous dit que tel poisson a passé de tant de temps à telle profondeur dans sa journée. Mais ça ne vous dit pas où sur le lac?
Bon, là maintenant, voilà. Mais ce sont nos étudiants qui font les localisations. Donc, on a deux équipes. Une équipe qui travaille de 9h le matin à 9h le soir et une autre de 9h le soir à 9h le matin et qui font des localisations. Pendant 12 heures, ils ne font que ça, localiser des poissons. Et lorsqu'ils sont rendus au-dessus du poisson, et ça, on le sait lorsque le signal est à son intensité la plus forte, mais là, ils prennent une coordonnée GPS, on sait où est notre poisson et on va faire des localisations comme ça pendant 6 semaines.
Les rêves de tout pêcheur.
Ah oui, tout à fait, oui, ici, oui, tout à fait. Il y a bien des pêcheurs qui aimeraient avoir l'information que l'on détient pour localiser. Je peux vous dire exactement où sont les poissons en ce moment.
Bon, on va y aller.
On va y aller, parfait, Mme Blondin. On s'en va dans le coin de la falaise, c'est bon. Est-ce qu'on peut s'approcher, Catherine?
Ça a sauté derrière. Il y en a un qui vient de sauter derrière.
Ça doit être celle-là, c'est ça. Essaie de voir si tu peux l'entendre. Ah, mais c'est bon, même, on l'entend.
Ça, c'est un poisson en particulier qu'on entend. Alors ici, le principe est le même. On vient d'accoster à la chaloupe de... Je vais vous demander de vous présenter, d'ailleurs.
Moi, c'est Catherine Goyer. Je suis étudiante à la maîtrise. Je travaille avec Pierre Magnan. Puis c'est ça, je fais mon projet ici sur le lac Ledoux, sur les cycles de température des deux formes d'ondes de fontaine.
Moi, je m'appelle Amélie Carignan, puis moi, je suis étudiante au baccalauréat. Puis je travaille pour le projet de Catherine, qui travaille pour Pierre Magnan.
Alors, tout à l'heure, on était, Pierre Magnan, à côté d'un radeau où tout ça se faisait automatiquement. Et là, on vient localiser l'endroit dans le lac où sont les poissons, mais individuellement.
Tout à fait. Donc, en tout moment, Catherine sait quel poisson est en train de chercher. Et là, on entend le bip. C'est un poisson en particulier là, qui est très près de la chaloupe, là, si on entend le son avec cette intensité-là. Et donc, lorsqu'on est à l'intensité la plus élevée, mais Catherine ou Amélie vont prendre une coordonnée GPS et c'est la position XY ou dans le plan horizontal du lac. Où est notre poisson?
C'est quel numéro là qu'on entend?
C'est la fréquence 48761.
Et là, si je ne m'abuse, on est dans le coin de la fameuse falaise ici.
Oui, poissons se tiennent vraiment plus ici jusqu'au... Là-bas, il y a un petit cap de roche là, qui se tiennent jusque-là, mais la plupart qu'on a localisé aujourd'hui puis hier, c'était vraiment dans cette zone-là, là, dans cette baie-là ici.
C'est ça que les pêcheurs veulent savoir.
Exactement. Si les pêcheurs savaient ça, donc ils seraient tous agglutinés ici autour. Là, il y aurait seulement qu'à descendre leur ligne.
Mais ça, c'est vrai pour le jour, c'est pas vrai pour la nuit.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, le jour, les poissons font de la thermorégulation comportementale ou de comportement, ce qui veut dire qu'ils vont aller se placer eux-mêmes à une température qui va favoriser une activité quelconque. Le jour, c'est la digestion. Donc les poissons ne bougent pas beaucoup, vont se placer à un endroit, à une profondeur donnée, qui va correspondre à une température donnée et donc vont optimiser ou maximiser leur digestion et donc leur croissance, donc le transfert d'énergie. Aussitôt que le soleil se couche, qu'on commence à avoir de la pénombre, là, on voit que les poissons commencent à bouger et bougent dans des patrons qui sont très conséquents avec les deux formes que l'on connaît. Donc, nos pélagiques vont rester au centre du lac et nos littoraux devraient aller dans les extrémités du lac. Et ça, c'est une des parties névralgiques du projet de Catherine. Si vous voulez aller avec elle... Faire une localisation. On change de bateau, allez-y. Nous, on va s'éloigner pour ne pas vous déranger.
J'entends vraiment bien derrière toi, par là.
C'est sur quelle fréquence?
Là, j'entends bien ces deux côtés-là. Donc, je sais qu'il est dans le milieu environ. 48-761.
OK.
Il y en a une de sauter.
J'aimerais que vous me parliez de cette façon. Comment est-ce que vous faites pour mettre des émetteurs dans les poissons que vous étudiez? Comment est-ce que ça se passe?
En fond, les émetteurs, Catherine a fallu qu'elle fasse des chirurgies sur les poissons pour les mettre dans l'abdomen des poissons. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'on les retrace. Ça a été plus stressant parce que le poisson ne peut pas rester hors de l'eau plus que à peu près 5 minutes. Là, à peu près.
Ouais, ça nous prenait à peu près 5-7 minutes par la chirurgie.
Oh! OK, c'est beau, on l'a.
Donc là, le poisson est en dessous de la chaloupe, là.
Oui, c'est ça. Puis là, je prends le point GPS.
Puis une fois que c'est fait, bien, on change de fréquence.
Et on recommence. Donc, on fait ça toute la journée.
Prochain.
Toute journée et toute la nuit. 901, est-ce qu'il est fait? Ouais. Et ça sort bien, donc.
Ouais. On ne l'avait pas fait, celui-là.
OK. De toute façon, lui, il s'en vient, puis... Le moteur.
C'est mon lift qui s'en
vient. Ouais, c'est ça. Oui.
Ah, ça saute, là.
Oui, oui, ça vient de sauter, là.
Ça saute partout, ça arrête pas. Ils sont très collaborants.
Oui, c'est ça.
Merci.
Bon été.
À un moment donné, ça va sauter dans la chaloupe.
Ça, c'est des histoires de pêcheurs.
Ces espèces-là sont peut-être différenciables pour vous, chercheurs, quand vous êtes ici entre la pélagique et la littorale. Du point de vue des pêcheurs, ils la reconnaissent comment?
Ah, ça, c'est intéressant parce qu'on a aussi trouvé qu'il y a une différence que les pêcheurs connaissent et qu'on pense avoir expliqué avec la question des deux formes, hein, parce que ce ne sont pas deux espèces. Imaginez que vous allez à la pêche une journée dans le même lac, vous capturez 10 truites mouchetées. Vous revenez au camp le soir, vous les arrangez et vous vous apprêtez à les faire cuire. Et lorsqu'elles sont dans la poêle, vous vous rendez compte qu'il y en a 5 qui tournent couleur saumonée et il y en a 5 qui tournent couleur maïs. Donc, ils vont rester jaunes. Et on a déjà des travaux préliminaires qui nous permettent de fortement supposer que c'est dû à l'alimentation différente des deux formes. On sait que les carotènes, la couleur rouge chez les vertébrés, y compris les humains, ne peut s'obtenir que par l'alimentation. Donc, chez l'homme de Fontaine, ce qui se passe, c'est la forme pélagique, la forme du centre du lac consomme du zooplancton, et le zooplancton est très riche en carotènes. Et les poissons qui tournent couleur saumonée à la cuisson sont nos pélagiques. Et les poissons qui restent couleur maïs, jaunâtre, mais ce sont nos littoraux qui s'alimentent de larves d'insectes qui contiennent beaucoup moins de carotènes.
Voilà une énigme de résolue.
Tout à fait, parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Nos pêcheurs ont beaucoup d'hypothèses en ce qui a trait à ces différences de coloration-là. Ce ne pas des poissons qui s'alimentaient dans la vase, ce ne sont pas des poissons qui ont frayé, ce ne sont pas des poissons ensemencés. Donc là, on a la quasi-certitude, parce qu'en science, avant de déclarer quelque chose absolument certain, on a besoin d'encore quelques vérifications. Mais déjà, on a fait des dosages de carotène dans les muscles des deux formes et on obtient des résultats là, qui suggèrent ou qui démontrent que la différence est due à une plus grande quantité de carotène dans une des deux formes.
Et voilà.
C'est un peu amusant, hein, ce lac-là. Le lac Ledoux est maintenant connu de tous les gens qui travaillent en évolution sur les poissons parce qu'on s'en sert comme modèle. Il y en a d'autres modèles. Il y a le modèle de l'ombre le chevalier. Il y a le modèle du crapet-soleil. Au niveau international, il y a le modèle de l'ombre de Fontaine ici. Ce qu'il y a de particulier avec l'ombre de Fontaine, contrairement à l'ombre le chevalier, l'ombre chevalier, il y a jusqu'à 4 formes différentes. Et lorsqu'on a les 4 formes sous les yeux, on est capable de les différencier. Ça, donc, on appelle ça un polymorphisme contrastant. Polymorphisme lié aux ressources, qui est très contrastant. Dans le cas de l'ombre de Fontaine, ce qui est intéressant, c'est un polymorphisme subtil. Donc, je vous montrerai les deux formes, bien malin est celui ou celle qui pourrait dire ça, c'est une littorale et ça, c'est une pélagique. On a besoin de prendre des mesures très fines. Ce qui est intéressant, donc, c'est un polymorphisme subtil et c'est probablement parce que ce système-là est plus jeune que le système de l'ombre chevalier dans son historique d'évolution. Donc, c'est ça qui est intéressant parce qu'on est encore plus tôt dans le processus de diversification. Et là, on peut faire des comparaisons parce que moi, je suis en contact avec les gens de la Norvège qui travaillent là-dessus. Et il y a des gens aussi des Pays-Bas qui travaillent sur le modèle de l'ombre chevalier. Et là, bien, on compare nos données et ça nous permet d'aller chercher des réponses aussi qui sont complémentaires. Ça nous permet de voir qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Là. Comment ça se passe, l'évolution et la séparation de nos deux formes en deux espèces, finalement. Et je vais même aller en parler dans la première semaine d'août en Islande. Et c'est pas seulement des gens qui travaillent sur les poissons. Moi, je donne une conférence sur les poissons, mais il y a un collègue qui va en donner une sur les lézards. Il y en a un autre qui va parler des oiseaux. Là, on travaille vraiment au niveau de l'évolution. On veut savoir comment ces processus évolutifs-là se produisent et quels seraient les dénominateurs communs d'un type d'organisme à un autre. Et c'est ce qui nous amène à comprendre de façon plus complète les processus évolutifs, ce qui fait progresser notre monde ou ce qui fait évoluer notre monde.
Merci beaucoup, Pierre Magnan.
Merci beaucoup, Mme Blondet, ça m'a fait plaisir.
Beau lac Le Doux.
Excellent, oui, hein, c'est vrai qu'il est beau. Hein?
C'est vrai qu'il est beau.
C'est bien.
Puis cet été, c'est pas pour les pêcheurs, mais c'est bon pour les chercheurs.
Voilà.
La semaine prochaine, la biodiversité des espèces animales domestiques. Une visite à la ferme avec Yannick Villedieu, des poules Chanteclair, des vaches et des chevaux de race canadienne. Une race domestique disparaîtrait chaque semaine sur la planète.
Lily Boisvert, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radiotradeunioncanada.ca/lumière et également en diffusion en direct par satellite Sirius et en flux MP3. Vous pouvez aussi emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Les Années-Lumière débordent de l'espace-temps.
Nous vous proposons maintenant en rappel une grande rencontre avec Pierre Rabhi, un personnage plus grand que nature. L'écologiste Nicolas Hulot a dit de lui « il faut écouter cet homme-là ». Agriculteur, écrivain et penseur, Pierre Rabhi a même fait campagne pour être candidat à l'élection présidentielle de France en 2002. Originaire d'Algérie, il s'est installé en Ardèche, dans le sud de la France, au début des années 60, pour cultiver la terre dans des conditions parfois très difficiles. Au fil des ans, il a mis en application les grands principes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie. Il a même contribué à l'élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Lors de son passage au Québec, Chantal Srivastava a rencontré Pierre Rabhi. Il explique tout d'abord ce qu'est l'agroécologie, avec en fond sonore la musique d'un de ses amis de cœur aujourd'hui décédé, le violoniste virtuose Yehudi Menuhin, qui, à maintes reprises, a endossé sa cause.
Moi, j'ai commencé, si vous voulez, puisque j'ai fait un retour à la terre dans les années 61, en réaction à l'agriculture dite chimique, etc. Il fallait vraiment avoir la foi, c'est-à-dire avoir la certitude que c'était que l'agriculture biologique était la bonne méthode, la méthode juste. Et ensuite, alors, je suis allé au Sahel, soumis à la rigueur de la sécheresse des années 70, avec la destruction de la biodiversité végétale, animale, les troupeaux, les gens sont morts de faim, etc. Ça a été un cataclysme énorme. Et c'était, dire, est-ce que cette expérience sur notre propre ferme, d'une agriculture qui n'a pas recours du tout à des substances chimiques, était applicable sur le lieu. Et à ce moment-là, j'ai découvert qu'on ne pouvait pas se contenter de faire que de l'agriculture biologique, puisque l'environnement lui-même était atteint. Donc il fallait introduire l'agriculture écologique dans le sens où il y a dans l'agroécologie, le terme d'agroécologie, il y a à la fois l'aspect, bien sûr comme le devine, agriculture, mais il y a aussi l'écologie. Alors ça a été une extension de l'agriculture biologique vers des séquences ou des activités qui concernent la nécessité de reboiser, la nécessité de lutter contre l'érosion, la nécessité de gérer l'eau pluviale, la protection des sols, la nécessité de revoir complètement le mode pastoral, le mode d'élevage, etc. Et ça intègre tout cela, la nécessité aussi de préserver les semences, parce que c'est très important que les semences transmissibles de génération en génération soient préservées. Et c'est une approche qui, au-delà de l'activité agronomique, comporte aussi une philosophie.
Pierre Rabhi, au cours de votre cheminement, vous en êtes venu très rapidement d'ailleurs à faire, je dirais, ce qu'on pourrait peut-être appeler le procès de l'agriculture industrielle. Vous êtes d'accord avec le terme de procès? Vous êtes très critique. Hein,
oui, très critique. Alors, je n'ai jamais, évidemment, je m'en suis jamais pris aux agriculteurs eux-mêmes. Moi, je considère qu'il y a là une responsabilité partagée. Les consommateurs voulaient des produits pas chers, les agriculteurs, on leur a, en tout cas en Europe, il y a eu la fameuse politique agricole commune qui les a incités à produire pour compenser les déficits suite à la guerre, etc. Donc ils ont été mis dans un processus en quelque sorte de produisez parce qu'il faut compenser les... Ensuite l'agriculture est passée, comment faire de l'agriculture lucrative? Et on est parti dans un délire incroyable du productivisme à tout prix, à tout craint, etc., etc. Cette agriculture, en quelques décennies, a ruiné le patrimoine. Terre, eau polluée, espèces disparues, paysans disparus, etc., etc.
Et pourtant, ce qu'on nous disait, ce qu'on nous dit encore, c'est qu'avec ce type d'agriculture, on va en venir à nourrir le monde, nourrir la planète. Et même qu'au récent sommet de la FAO sur l'agriculture et l'insécurité alimentaire, on vise encore, comme voie royale, augmenter les rendements. Comment vous pensez qu'on va pouvoir se sortir de cette spirale du toujours
plus? Non, mais
plus?
C'est une imposture totale parce que, en fait... L'agriculture dite chimique, elle a eu quand même quelques décennies où elle pouvait s'exercer comme elle voulait. Et le constat aujourd'hui, c'est que non seulement elle n'a pas éradiqué la faim, mais elle l'a aggravée. Parce qu'on est rentré dans des systèmes... Quand vous avez un mode agricole qui repose sur le pétrole, il faut à peu près deux tonnes de pétrole pour faire une tonne d'engrais, que le pétrole est indexé sur le dollar, etc. Et que vous poussez les paysans à produire pour exporter. Pour l'exportation, avec des investissements d'intrants au départ sans du tout préjuger du résultat, où vous investissez mais vous n'êtes pas sûr du tout. Déjà, l'investissement que vous faites, vous avez dépensé, hein, déjà. Et ensuite, le résultat, vous ne le connaissez pas, puisqu'on est dans un monde aléatoire,
la nature.
Et puis ensuite, la marchandise regroupée, eh bien, elle va, celle du petit paysan avec sa famille, etc., est traitée de la même façon que celle de l'agriculteur américain avec son tracteur et des centaines d'hectares. Donc, la loi du marché ensuite qui fait que la concurrence est inégale, donc le petit paysan est détruit. Par ailleurs, vous avez au nord des agriculteurs subventionnés. Logiquement, vous voyez immédiatement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications pour se rendre compte qu'on met en place un système totalement inégal, totalement inéquitable. Et de ce fait, on a aggravé les famines. L'agriculture moderne n'a pas solutionné. Et je pense que petit à petit, ce que ne perçoivent pas les Occidentaux, qu'on dit du bon côté de la barrière, ce qu'ils ne perçoivent pas, c'est que même l'Occident est menacé de pénurie. Menacé de pénurie par la logique même qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, quand on rassemble les divers paramètres concernant la problématique alimentaire mondiale, il y a une conjonction négative qui est une menace non seulement sur les pays du Sud, qui n'y arrive pas, mais aussi sur les pays du Nord. Parce que ce mécanisme-là, on a fait les bilans écologiques, mais on va bientôt faire les bilans réellement sur ce que signifie aujourd'hui la problématique alimentaire. Et aujourd'hui, les savants sérieux et crédibles disent que l'alimentation véhicule des nuisances qui sont préjudiciables à la santé publique. Et c'est vrai qu'il y a une augmentation de pathologies énormes par rapport à la santé publique. Donc, on produit beaucoup, même très mal, et même nuisible. Alors, bientôt, la nourriture qui est censée entretenir la vie va participer à la mort. Et je dis un peu, de façon humoristique, bientôt, quand on se mettra à table, il faudra souhaiter, non pas bon appétit, mais bonne chance.
Pierre Abbey, on est ici à l'émission Les Années-Lumière, où on s'intéresse à la science, aux techniques, à l'ingénierie. Quel est le rôle de la science, des scientifiques, des différentes compagnies qui font de la recherche, des laboratoires, des universités?
Vous savez, je n'ai aucune déférence par rapport à la science. Par contre, j'ai une déférence, c'est-à-dire que je considère que la science est une activité humaine qui produit, comme toute activité humaine, le meilleur et le pire. Donc aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a du meilleur, mais il y a aussi du pire. Je crois que c'est scientifiquement qu'on a inventé des engins de destruction, des missiles, etc. Je veux dire, c'est quand même la science. Et on peut lui imputer énormément de choses négatives sur cette planète. Et il y a aussi toutes les évolutions positives dans certains domaines, comme la médecine, comme des domaines où on peut constater les bienfaits de la science qui aussi peut aider à améliorer la condition humaine, etc. Donc c'est un domaine très ambigu, si vous voulez. Je pense qu'on aura la science qui sera à la mesure de la conscience. L'être humain, il est créatif. Alors, dans quelle posture spirituelle ou quelle posture de conscience il fait les choses? Alors, la science peut aider vraiment à l'amélioration de la condition humaine, réellement, mais à condition que l'objet de cette science, c'est pas d'abord la vanité des individus qui veulent trouver des trucs, avoir des prix Nobel, etc., etc. Ça, je trouve ça assez infantile. Mais par contre, dans l'idée de dire comment utiliser cette aptitude formidable de comprendre les phénomènes, etc., à des fins d'amélioration et de progrès réels destinés à changer la condition humaine et à l'alléger. Donc, vous voyez, c'est ambivalent, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas juger que dans un sens ou dans l'autre, comme de toute activité humaine, le meilleur et le pire.
Pierre Abbey, vous êtes agriculteur, mais vous êtes aussi écrivain et vous avez pris la plume au fil des années pour raconter votre parcours, pour éveiller les consciences, également pour publier un manifeste pour la Terre et pour l'humanisme qui est paru en 2008, qui est un appel à la conscience. Pouvez-vous nous dire un peu concrètement, les gens qui nous écoutent et qui se disent « Oui, je constate tout ce qu'il dit, mais je ne sais pas quoi faire. Je mange, on vit sur un climat qui est nordique, j'achète des produits, je ne peux pas tout cultiver, je ne peux pas tout acheter à proximité. » Quelle issue proposez-vous?
Pour nous, nous proposons un autre paradigme. Sortir du paradigme de la productivité, de l'argent roi, etc. Éduquer les enfants autrement, sur d'autres valeurs, etc. Et mettre l'humain et la nature au cœur de nos soucis et de nos préoccupations. Et tout le reste à leur service. L'économie, ça doit être au service de la vie. Ça ne doit pas être celle qui détruit la vie. On distribue des prix Nobel à des tas de gens et qui parlent d'économie, mais ce n'est pas l'économie. N'appelons pas économie ce qui ravage la planète. L'économie, c'est au contraire une noble discipline qui répartit les ressources, qui gère les ressources. La nature nous donne l'exemple d'un système qui n'a pas de poubelle. La nature n'a pas de poubelle, elle n'a jamais créé quelque chose qui soit du rebut. Et c'est une belle leçon d'économie que de dire comment gérer les biens et les ressources, les répartir et donc obtenir quelque chose. Alors, que peut faire l'être humain? L'être humain, il faut qu'il prenne conscience de ça. Parce que nous sommes dans un système de consommation illimité. Le toujours plus, toujours plus, toujours plus. Toujours plus, ça veut dire que si je suis dans cette insatiabilité qui ne me donne même pas la joie, parce que la joie, ça ne s'achète pas. On peut acheter tous les yachts, tout ce qu'on voudra, mais on n'achète pas la joie. On peut être parfaitement malheureux avec un tas de yachts. Ça ne relève pas de ça. Parce que tout ce fatras que nous avons accumulé autour de nous, ça coûte de l'aliénation humaine. Ça coûte énormément de travail, ça coûte énormément. Alors du coup, nous sommes dans un système dans lequel on ne sait pas à quel moment on vit. Je rencontre beaucoup de gens qui disent, je regarde en arrière, j'ai beaucoup travaillé, mais finalement, voilà, j'ai réussi ma vie économique, mais j'ai échoué ma vie humaine. Chemin faisant, ma femme m'a quitté, j'ai pas vu grandir mes enfants, donc ils étaient satisfaits puisque je n'ai pas créé de lien avec eux, parce que durant ce temps-là, il fallait que j'aille gagner de l'argent à tout prix et beaucoup d'argent, en pensant que c'est avec cet argent que j'allais finalement compenser et combler les manques. Non, l'argent ne comble pas les manques. Il comble la matière, disons le besoin de matière, mais il ne comble pas le besoin d'intériorité et de satisfaction intérieure.
Donc Pierre Rabhi, en guise de conclusion, pour les gens qui nous écoutent, qui sont d'accord avec le discours, mais qui se demandent comment poser des gestes aujourd'hui, maintenant, la semaine prochaine, le mois prochain, qu'est-ce qu'on leur dit?
Eh bien, disons que c'est un long processus. On n'a pas une baguette magique pour faire. C'est-à-dire que c'est pour ça que je propose la sobriété heureuse. Pourquoi? Parce que je l'ai appliquée moi-même. C'est pas une théorie. C'est quelque chose auquel je crois, mais vraiment profondément. Que quand on limite ses ambitions, on commence à limiter ses ambitions, de dire, tiens, pourquoi est-ce que je changerais telle chose puisque ça marche toujours? Pourquoi est-ce que je voudrais encore plus autre chose, etc., etc., et que je mets une limite à cela, ça induit quelque chose qui met de la satisfaction. Parce que si vous êtes constamment à vous demander quoi, vous êtes dans l'insatisfaction. Et donc, je crois que ça tient beaucoup plus, au-delà des gestes matériels, ça tient surtout à une perception intérieure profonde. Et quand j'ai cette perception que je peux me contenter de ce qui me revient normalement et ensuite je suis désaliéné par rapport au superflu. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le nécessaire, c'est que nous sommes dans une situation du superflu. Et chaque jour, chacun, moi le premier aussi, je participe à ce superflu puisque je suis moi-même dans une contradiction importante. J'ai une voiture, je roule beaucoup parce que je dois donner des conférences.
Traverser l'Atlantique.
Voilà, je traverse l'Atlantique, je prends l'avion, etc. Donc il ne s'agit pas de jouer, je ne me propose pas comme étant exempt des contradictions que j'essaie de combattre. C'est simplement de se dire, mettons en route un processus qui va nous amener à mieux nous comprendre nous-mêmes. Notamment l'éducation des enfants, c'est quand même incroyable que l'enfant ne lui apprend pas à se connaître lui-même, à développer ses sens, à se comprendre, et tout d'un coup. Donc c'est tout un processus qui intégrerait beaucoup de choses, mais en tout cas qui aboutirait à générer une perception intérieure qui nous met bien en évidence que nous sommes piégés par la matière quand elle est excessive et qu'il faut qu'on se libère de cette matière en étant dans la sobriété. Et par ailleurs, le monde différent ne se construira pas simplement parce qu'on va économiser l'eau. Et je dis souvent, on peut manger bio, recycler son eau, chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. Je veux dire que ce n'est pas croire que parce qu'on va mettre en route une multitude d'alternatives architecturales, écologiques, etc., etc., que la société va changer. Or, l'objet final, disons, de notre système et de notre aventure humaine, c'est d'aboutir à une société réconciliée avec elle-même et non pas une société dualiste où l'on met aujourd'hui, avec la mondialisation, on se fait la guerre, on se fait la guerre économique, qui enclenche la guerre militaire, qui enclenche, etc., etc. Ça, c'est une immaturité et ça commence par soi. La société, c'est moi et moi, c'est la société. Et la seule chose sur laquelle je peux agir, c'est moi-même. J'agis sur moi-même. Je rentre dans une forme de tempérance, de forme de modération. Et cette modération, elle contribue au changement du monde.
Pierre Rabhi, je vous remercie infiniment d'avoir fait un détour dans notre studio pour venir partager votre expérience et vos réflexions. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Chantal Srivastava s'entretenait avec l'agriculteur et écrivain Pierre Rabhi. A noté également son dernier livre publié chez Actes Sud intitulé « Vers la sobriété heureuse ». Nous baignons tous dans une véritable soupe chimique. En fait, nous sommes carrément imbibés de polluants. C'est la conclusion troublante du livre 100% toxique qui vient d'être publié aux éditions Thierry Soucard. 100, S-A-N-G, comme dans contamination sanguine. L'auteur Jean-François Narbonne est toxicologue, chercheur à l'Université de Bordeaux. Il est l'un des pères de l'écotoxicologie en France. Au cours de ses 30 et quelques années de recherche, il a vu passer tous les combats, toutes les controverses autour des dioxines, des pesticides et autres plastiques. Et aujourd'hui, il nous met en garde contre les contaminants d'aujourd'hui, mais aussi ceux d'hier qui circulent dans notre corps depuis notre naissance et même avant. Gaëlle Lucia Berdou a joint Jean-François Narbonne dans nos studios de Paris. Il revient d'abord sur cette carrière passée à étudier les dangers de la chimie.
ça a d'abord été les produits persistants qu'on appelle les POPS, donc les BPC. D'ailleurs, j'ai fait ma thèse sur les BPC, hein, ma thèse de toxicologie, le DDT, tous ces produits persistants qu'on retrouvait justement dans les graisses des animaux et donc dans le sang. Hein, le vecteur était le sang. Et justement, l'idée, c'était qu'on pouvait transmettre, d'où l'idée de 100%, vous savez, c'est le sang qu'on transmet aux futures générations, à ses enfants. Et l'idée, c'était qu'à partir du moment où ces contaminants étaient présents dans les graisses du sang et dans les graisses du lait, on pouvait donc les transmettre à nos enfants, en particulier au moment de l'exposition fœtale et ensuite par l'allaitement humain. Et ce qui est le plus grave, c'est que cet état fœtal, c'est à ce moment-là que se passe l'organogénèse, c'est-à-dire la mise en place des organes et des fonctions, et c'est donc l'état le plus critique, le plus sensible pour déclencher des maladies à long terme. Et l'idée aujourd'hui où la conscience des problèmes de santé et d'environnement est devenue très prégnante dans nos sociétés, c'est d'expliquer aux gens le décalage qu'il peut y avoir entre les maladies d'aujourd'hui et les polluants d'hier. C'est-à-dire que les maladies d'aujourd'hui, vu le temps qu'elles mettent pour s'installer, ce sont les polluants d'hier. Parce que malheureusement, aujourd'hui, souvent, les gens disent qu'il y a de plus en plus de cancers, de plus en plus de maladies, et ça, elles sont tout à fait décrites dans mon livre. Et les gens ont tendance à chercher les polluants d'aujourd'hui. Or, il y a une génération qu'on appelle la génération sacrifiée, c'est-à-dire celle des années 70, où il y avait un pic de pollution, mais énorme. Hein. C'est le moment où on a le plus pollué massivement la Terre, et c'est cette génération-là qui devient adulte aujourd'hui, ou qui est adulte aujourd'hui, sur laquelle on voit les conséquences, en particulier en termes de cancer, de leucémie, en termes aussi d'obésité ou de diabète, hein, parce qu'on s'est aperçu que ces produits étaient aussi impliqués dans ces maladies, ou même des problèmes neurodégénératifs, Parkinson, ou des maladies du comportement, hein, comme la diminution du QI, par exemple. Et je dois dire que le Québec a servi un peu de laboratoire, puisque malheureusement, les environnements les plus pollués sont les environnements nordiques, du fait de ce qu'on appelle les transports à long terme, avec les retombées de poussière et de polluants sur les zones nordiques, et avec la contamination des écosystèmes nordiques. Les Inuits, par exemple, ont été extrêmement étudiés pour constater les dégâts que pouvaient faire ces composés.
Mmh. Mais vous parlez, vous le disiez, d'une génération sacrifiée, c'est très fort quand même comme terme.
Oui, c'est la génération qui sont nées entre les années 65 et 95 et qui ont été massivement exposées aux polluants, parce que, si vous voulez, bien que la prise de conscience de ces effets sanitaires de la pollution ait eu lieu dans les années 60, hein, le livre de Rachel Carlson, The Silent Spring, Le printemps silencieux, était de 62-63, qui a abouti à l'interdiction du DDT et du BPC dans les années 70. Ben, on a continué, sous prétexte de développement économique et soit du plein emploi, enfin, on nous donne les 30 glorieuses souvent comme un temps béni de l'économie et de l'emploi. Ça a été le moment de pollution la plus massive, c'est-à-dire qu'on a sacrifié l'environnement et la santé donc des futures générations de l'époque au bénéfice du développement économique. Et aujourd'hui, on en paie le prix. Donc il ne s'agit pas d'accuser la pollution d'aujourd'hui de ces maladies. Par contre, il s'agit de prendre conscience de la pollution d'aujourd'hui avec la multiplication des sources d'exposition, mais à de faibles doses. Les enjeux sont totalement différents. On n'a plus de pollution massive, on a des pollutions diffuses, en particulier dans la maison, dans les produits cosmétiques. On a multiplié notre environnement chimique en utilisant des lingettes, en mettant du téflon sur nos poils, en mettant des phtalates dans nos tissus et dans nos peintures, etc. Donc on a multiplié cet environnement. Alors, de faibles doses, mais on a aujourd'hui surtout des cocktails, et il s'agit de changer de méthodologie pour évaluer les risques et surveiller la santé publique. Et c'est un peu cette idée-là que je développe dans mon livre. On a amélioré beaucoup de choses parce qu'on a interdit les produits, et aujourd'hui la pollution est bien moindre, contrairement à ce qu'on entend généralement, que dans les années 70. Par contre, elle a changé de nature et donc elle nécessite de nouveaux outils de surveillance et d'évaluation.
Alors justement, ce sont les effets cumulatifs de tous ces produits en relativement faible quantité qui nous entourent quand même, mais encore faut-il, maintenant qu'on sait qu'on est entouré de produits chimiques et quand même on contient des produits chimiques, encore faut-il pouvoir démontrer les effets qu'ils peuvent avoir sur la santé. Et ça, c'est quand même assez difficile à faire. À quel point est-ce que la science aujourd'hui est capable de conclure sûr qu'un produit cause une maladie ou une autre?
Alors voilà, justement, parce qu'on s'est aperçu que dans le passé, il fallait attendre un certain temps pour voir les maladies. Hein. On l'a vu avec l'amiante, où on a vu les impacts, les malades 20 ans après, finalement, le pic d'exposition, ou dans les maladies professionnelles, c'est après la retraite que les travailleurs voient apparaître les maladies, alors que pendant leur période d'exposition, ils n'avaient pas de troubles. Et évidemment, il était absolument aujourd'hui impossible d'attendre de constater les dégâts 20 ans après. Hein. Il s'agit de tirer les conséquences justement de cette expérience des 30 Glorieuses pour prévoir et se prévenir évidemment des futures maladies. D'où l'idée, c'est y a quand même heureusement depuis 30 ans de développement dans nos laboratoires de tests. Moi j'ai travaillé depuis 30 ans sur ce que j'appelle les biomarqueurs, hein, les biomarqueurs d'exposition ou des biomarqueurs d'effet, qui sont des signes biologiques qui nous permettent, je dirais, de prédire de futures maladies. Donc d'arrêter des expositions si elles sont nocives et qu'elles peuvent entraîner des maladies. Alors, vous savez, les biomarqueurs, c'est des choses au départ très simples. Hein. On a des marqueurs sanguins. Vous savez, par exemple, on fait les transaminases du sang pour voir si on prépare pas une maladie du foie ou une cirrhose. On a l'anticorps qui identifie les cancers de la prostate. Hein. Donc ce taux d'anticorps monte avant que les cancers apparaissent. Donc c'est ce qu'on appelle donc des biomarqueurs d'effet, c'est-à-dire des signes qui nous alertent que si on continue, eh bien la maladie à terme pourra arriver. Donc l'idée, c'est d'utiliser aujourd'hui ces outils en épidémiologie, alors que très souvent l'épidémiologie s'est contentée donc de constater les dégâts 20 ans après. Donc aujourd'hui, il s'agit de prévenir ces dégâts en utilisant les outils qui ont été forgés par la biologie moléculaire, la toxicologie moléculaire et ce qu'on appelle aussi l'épidémiologie moléculaire pour la surveillance des populations. Et il y a un autre élément aussi extrêmement important, mais qui était déjà connu, c'est ce qu'on appelle aussi les gènes de susceptibilité, c'est-à-dire que malheureusement, on n'est pas tous égaux devant la maladie ou devant la pollution. On a connu ça avec des fumeurs ou des buveurs. Hein. Il y avait des gens qui fumaient toute leur vie et puis qui mouraient plus vieux que tout le monde, alors que d'autres avaient des cancers à 30 ans. Donc on s'est rendu compte qu'il y a aussi devant, pour une même pollution, une même exposition, eh bien on est assez inégaux en fonction de notre patrimoine génétique. Alors on connaissait ça pour des cancers, on savait qu'il y avait des familles où il y avait plus de cancers du sein ou plus de diabète que dans d'autres. Eh bien aujourd'hui, on arrive à identifier, je dirais, les personnes sensibles de façon à éventuellement les protéger, leur donner des messages de protection particuliers par rapport à la population générale. Donc tout l'enjeu, je dirais, de la santé publique du futur est sur ces outils et ces programmes de surveillance.
Et si on revient aux biomarqueurs, vous utilisez ça même justement pour évaluer les effets cumulatifs de différents produits. Vous vous êtes prononcé récemment, entre autres, sur les questions du bisphénol A dans les biberons, dont on a abondamment parlé, puisque ce sont des produits qui éventuellement peuvent mimer certaines hormones, donc qui peuvent avoir un effet sur le développement peut-être des jeunes enfants. Et vous disiez, dans le fond, la question des bisphénol A dans les biberons, c'est peut-être pas si important, mais il faut la regarder dans un contexte global de ce qu'un nourrisson, par exemple, peut absorber.
Oui, parce que le problème, donc ce que je disais, c'est que l'action la plus forte, c'est à l'état fœtal, et donc le biberon, finalement, ça vient une fois que l'enfant est né, alors que le problème est l'exposition maternelle, puisque via le sang maternel, l'enfant peut être exposé. Et deuxièmement, que l'enfant tétant sa mère peut avoir des doses 10 fois supérieures dans le lait humain que dans le biberon. Donc on voit bien que le problème n'est pas forcément le biberon. Et si la mère est imprégnée, c'est pas à cause des biberons, c'est à cause des revêtements des boîtes de conserve, parce qu'aujourd'hui, toutes nos boîtes de conserve sont entourées d'une résine contenant ce bisphénol-là. Et en particulier, les plats préparés contenant des matières grasses, je dirais, qui favorisent la migration. Une étude donc, de notre agence sanitaire a permis d'identifier que la principale source d'exposition était les boîtes de conserve contenant des plats préparés. Donc, si vous voulez, il y a une espèce aujourd'hui d'utilisation, je dirais, par des associations qui essaient de faire de la surenchère pour se faire reconnaître, avoir des adhérents, et qui peuvent intéresser aussi beaucoup de partis politiques aujourd'hui qui, je dirais, mettent l'écologie en avant pour récupérer les électeurs qu'ils auraient perdus par ailleurs. Disons que l'écologie ou la santé publique étant devenue un enjeu sociétal, et donc rentrer dans le jeu de la société, hein, des différentes forces, des lobbies, je dirais, qu'ils soient associatifs ou industriels. Et donc, c'est pour ça que chacun chacun essaie de, je dirais, d'utiliser les informations en fonction de ses intérêts, et d'où la perplexité du consommateur qui se trouve noyé par un état d'informations extrêmement contradictoires quand il va sur Internet, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi créé des agences sanitaires, et Dieu sait, celles du Québec et du Canada sont bien efficaces dans leurs études et qui servent souvent de modèle d'ailleurs aux autres agences. On regarde beaucoup les avis de Santé Canada. Donc, elles sont très importantes pour donner, je dirais, au moins un point de vue scientifique, rigoureux et indépendant aux consommateurs. Et c'est un peu dans ce sens-là, comme moi je suis un expert public participant aux agences en France, pour essayer d'essayer de remettre la hiérarchie des problèmes telle qu'on peut la voir par un scientifique et non pas, je dirais, en fonction des intérêts médiatiques ou de différents types de lobbies.
En terminant, Jean-François Narbonne, on a réglé plusieurs problèmes quand même. On a interdit en tout cas plusieurs produits au fil des années. Votre grande préoccupation actuelle, ce serait quoi?
Alors, la bonne nouvelle, et qui date de il y a moins de deux mois, puisqu'on a eu le grand congrès sur les BPC, le congrès mondial a été en Suède le mois dernier, c'est qu'on a vu récupérer la fécondité des phoques et des oiseaux, en particulier des aigles, dans les régions nordiques. Donc, la diminution extrêmement significative des teneurs en BPC ou en DDT dans les environnements a permis justement, une réversibilité des dégâts qu'on avait constaté dans les années 60. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que ces cocktails d'organochlorés étaient assez en relation avec ce qu'on appelle les lymphomes non-Hodgkiniens, c'est-à-dire des sortes de leucémies qui avaient explosé dans les 20 dernières années. Et on a commencé à voir ces lymphomes non-Hodgkiniens s'arrêter, si vous voulez, avoir un plateau en 2000 et commencer à régresser depuis 2005. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles montrant que lorsqu'on veut prendre en main notre avenir et mettre en place des stratégies de contrôle de pollution, on arrive à des résultats. Et par contre, je dirais, la mauvaise nouvelle, si on peut dire, c'est qu'on a multiplié nos sources de production parce que pour notre confort, on utilise quand même aujourd'hui des cosmétiques, des peintures, des rafraîchisseurs d'air intérieur, etc., qui multiplient, et surtout d'ailleurs l'air intérieur avec les colles à moquette, les bois synthétiques utilisés pour nos meubles, les produits d'encaustique utilisés, tout ça, on a, pour notre confort, si vous voulez, on a multiplié les petites sources de produits chimiques qu'il est tout à fait nécessaire aujourd'hui d'évaluer par des nouveaux moyens pour répondre à ces futurs enjeux.
Jean-François Narbonne, on va se laisser là-dessus. Je rappelle que vous êtes l'auteur de 100% toxique, c'est publié aux éditions Thierry Soucard. Merci beaucoup, Monsieur Narbonne.
Merci à vous.
Et voilà, c'est tout pour cette édition des Années Lumière. L'équipe, le réalisateur Robert Lamarche, le technicien Martin Lavoie, les journalistes Gaëlle Lucia Berdou, Chantal Srivastava, Yannick Villedieu et la journaliste au site Internet Lily Boisvert. Appelez-nous, posez-nous vos questions par téléphone 514-597-6166 de l'extérieur, 1-800-752-9050. C'est Sophie-André Blondin qui vous parle. Yannick reprend sa place derrière ce micro pour notre édition de la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine.